Bonjour Chantal.
Bonjour Armand.
Alors aujourd'hui, nous reprenons ces lectures de Gilles Lade, c'est bien ça?
Oui.
Très bien, allez-y.
Oui. Donc alors, nous repartons sur le Cos qui fut arpenté par Saint-Namphèse, si vous vous souvenez d'une émission
oui,
précédente.
Bien sûr.
Et nous reprenons aussi le chemin de Cambrièle. Il ne prenait plus la vie de sa tante pour la conduite des travaux. Vous voyez, entre-temps, il a grandi.
Oui, effectivement.
Il cherchait encore moins à dénouer le mutisme de son père. Ce dernier roulait des yeux outrés lorsqu'il le voyait lancer des coups de pied désinvoltes dans des caisses ou des tas de cuir et se camper sur la porte en se dandinant. Voûté, Cambrièle repartait chez lui. Il cassait nerveusement du bois, portait le feu, se plantait à califourchon sur une chaise et retrouvait le calme à scruter les flammes, leurs craquements et leur arrière-pays. Nous sentons presque l'odeur. Des routes s'y ouvraient. L'une d'elles le menait toujours plus à l'est, vers l'Asie centrale. Le Pamir, ce mot l'avait toujours fasciné, depuis qu'il l'avait lu, au centre d'une immensité jaune, à la carte murale de l'école. Longue piste, lac gris-plomb en sommeil, compacte forêt de conifères, neige jamais atteinte. Il se voyait, le bâton à la main, la musette sur le dos, demandant l'hospitalité à des hommes sombres et ridés, à l'accueil obséquieux. Il les observait en cercle, en famille, en tribu. Il semblait lui porter un certain intérêt. Il manifestait une satisfaction sans résignation, ni orgueil. Contemplait les colères du sable le long des vallées asséchées comme une brusque irruption de chevaux. Cambrièle était frappé par leur port de tête, le fil du regard sur l'horizon, au-delà même. Ils avaient cependant l'œil à tout et réprimandaient avec un gros rire le remue-ménage des enfants. Ils ne savaient pas vraiment s'ils resteraient avec eux. Dans ces huttes de peaux et de terre, près de ces feux à moitié éteints, que le vent sauvage creusait en roues de fumée. Il avait fait le chemin, c'était l'essentiel. Il regardait vers les hautes vallées où frémissaient des oasis d'eau tiède et de fleurs inconnues, à près de 5 000 mètres d'altitude. L'homme avait, vers l'Himalaya, une sagesse invincible à force de scruter le bleu dense du ciel à travers d'immenses nuages blancs. Au bout de ces chemins errants, sur des plateaux si vastes qu'une marche d'un jour ne changeait pas les repères. Un bruit, appel d'un voisin, passage de troupeau, aboiement, le tirait de ce lointain familier. Il allait soigner le bétail, rentrait, soupait. À la veillée, chez les voisins, son expression volontiers joueuse ne laissait pas supposer un tel instinct d'exil. Il fallut sacrifier au service militaire. Il choisit un ami, Armand, pour le remplacer à la terre. Il ajouterait ses quelques hectares à son exploitation. Sa tante accepta fort bien ce fermier d'humeur égale, de corpulence massive, au teint brique, qui ne riait que des yeux, et dont la démarche, arquée et légère, la poignée de main, la voix, évoquait d'abord la délicatesse. Homme à l'écoute, de tout et de tous, des signes et des passages d'oiseaux, habitué à cerner force et faiblesse. Cambrièle lui présenta d'un mouvement de bras les terres et le matériel. Il imaginait déjà les champs labourés au cordeau. Armand, plaçant d'instinct les bouchons de paille qui serviraient de marque pour les semailles. Donc, il partit un matin de brume légère pour Chalon-sur-Marne. Son cœur se faisait une joie des embûches et des surprises. Il avait décidé de ne pas se retourner, de prendre avec lui son pays, assuré de le retrouver en imagination, s'il l'avait dignement habité. Ce serait l'épreuve révélatrice, comme n'importe quelle récolte, comme la prise d'un greffon. Il affronta la vie de garnison, un œil sur les rites de cette société et l'autre sur les horizons quittés. Il retrouva nombre de Quercinois, de Corréziens, d'Auvergnats. Il comprit à quel point les vieux peuples continuaient de travailler la France, à quel point chaque région a ses repères. Mer, montagne, culture, usine, frontières. Il devait faire répéter tel breton à l'élocution précipitée. Il s'étonnait de constater que le patois des gens du Nord était plus proche du français que son patois à lui. Il se laissait difficilement aller à l'euphorie des repas, des palabres, des sorties en ville. Il avait toujours le vent d'Écosse dans l'oreille. Néanmoins, il se surprenait à rire bruyamment aux imitations du capitaine et du sergent instructeur réalisées par un Alsacien taciturne le reste du temps. Quand la journée avait particulièrement asséné la mesquinerie du règlement, que les discussions politiques avaient dégénéré en slogans, que son futur sombrait, une image lui revenait. Celle d'un moulin sur la tourmente. L'eau du printemps passait avec force. Les roues mordaient sur le grain, à la bonne cadence du cœur. Une truite mettait toute son énergie à se maintenir contre le courant, au ras de l'ombre. Elle amorçait un bond sur tout ce qui passait. Là-haut, les chaînes du plateau débordaient sur la falaise rouge. « Ce qui passe, ce qui reste, » se disait-il. « Demeurer là, toujours, possible. Avoir changé les arbres, les couleurs, l'eau, les visages. À se souvenir des hauts faits du passé. À espérer des choses mêmes, de tout l'inconnu. Moins d'éclipses, au bonheur. » Un éclat de voix le ramenait au mur de la chambrée, au toit de la caserne. Parmi les silencieux, c'était lui qui supportait le mieux les règles de l'enfermement. Il voyait venir les colères de l'adjudant, conseillait d'un mot le copain mal inspiré par l'humeur du moment. La quille s'annonçait. Braillement, beuverie, glapissement, course dans les couloirs. Le soleil éclairait le jour du départ. Il rendait presque agréable le séjour longtemps subi, comme si le fait de scruter ces lieux étrangers et froids avait fini par les humaniser, pardonner, suprême récompense, l'illusion qu'il aurait été agréable d'y continuer sa vie. Son retour au village fut heureux et maussade. Chaque province traversée le rapprochait de la singularité unique de son lieu d'origine. Le train détaillait la France sous ses yeux. L'abri, la bosse, l'impressionnaient par leur robuste géométrie. Mais le point serré illimité des blés, conjugué à l'absence humaine, les vastes fermes stratégiquement dispersées, tout cela l'effrayait. La Sologne lui rendit le frisson des bois. L'instinct, comme cela, de se cacher, de rejoindre la cabane des pauvres parmi les étangs et la terre grise. Longeant les arbres au milieu d'eux, sa pensée lui semblait protégée, délicieusement foisonnante. ce long tunnel de verdure lui communiqua un brusque appel de sauvagine. La champagne berrichonne, l'élan de ses collines, le mettait dans le bon sens du retour. La joie du relief, de beaux villages abrités, quelque grise que soit leur façade. Il doit faire bon d'attendre l'orage et la neige, le vent lumineux de juin, le soir au long vent cuivré. Depuis une de ses fenêtres, près de la gare, avec les hautes herbes le long des barrières. Ah, le Limousin, tout en masse, en profondeur, en silence, en futaies homogènes, percé d'amples pâturages, se mit à basculer vers Brive, à devenir de plus en plus frère du Quercy. Quelle joie! L'ardoise et la couleur des pierres démentaient encore les certitudes géographiques. Mais là, en cette fin juin ventée capricieuse, l'horizon de collines subtilement inégales, les lignes tourmentées des ruisseaux et des routes annonçaient les marges du sud, le pays des surprises, des vallons rebelles, des principautés ignorées, plus vivaces encore dans les esprits que dans le style des maisons, orgueilleusement différenciées, pourtant, de canton en canton. Dans l'autorail qui le menait vers Saint-Denis-près-Martel, Campriel, l'œil aux choses, aux reflets des arbres, aux versants splendidement éclairés par le soir, n'entendait plus les échanges sonores des voyageurs, ne voyait plus ceux qu'il avait reconnus et le fêtaient. Il retrouvait avec reconnaissance la province bâtie sur la pierre et qui exploitait alors les moindres recoins arables. Province qui a su faire voisiner le chêne, modeste, indéracinable, avec le vaste noyer, pour qui on a ratissé des champs immenses. Il ne regrettait plus de ne pouvoir prétendre aux emplois citadins, faute de diplôme. Le pays le reprenait comme un vaste lac entouré de montagnes et qui vous gardera. Il alla directement chez son père et poussa rudement la porte. Le bourrelier, saisi, eut dans l'œil attendrissement et colère. Attendrissement ou vulnérabilité devant ce gaillard brutal, impulsif. Colère, mais pourquoi donc colère ? Colère de celui qui se sent trahi par la surprise. Il comprit que la froideur était impossible. On est toujours heureux, quand même, de voir revenir son fils. Il eut quelques mots bien de circonstance, donna des nouvelles qui retouchaient l'idée du village, cet édifice de généalogie et de rumeurs, c'est joliment dit. Il était toujours au travail. Il montra d'un coup de menton ce qui restait à faire. Campriel comprit une part du silence paternel. Triturer sa vie dans une échoppe, l'œil au ras de la placette vantée face au carreau gris-blanc. Ah, sa tante lui fit un meilleur accueil. Certes, la vieillesse avait progressé sur son visage. Il sentit à quel point son existence l'enfermait. Les soucis, disait-elle. Armand aimerait bien garder une part des terres. Il faudrait s'entendre avec lui. Ah, Campriel sentit les mailles se resserrer. Il vit le fatalisme l'emporter sur la bonté à la façon dont elle croisait les mains sur son tablier, dont elle ramenait mécaniquement ses cheveux derrière l'oreille. Elle ne lui demanda pas de ses nouvelles, uniquement à la fin. Comme par devoir. À sa brusque peine, il comprit qu'il était resté un peu tendre. Armand fut tiède et poli. Ils convinrent de se partager la tâche quelques mois encore. Cambriel, son désarroi bien calfeutré, reprit ses allées et venues et perçut de nouveau l'idée sensible du village qui se formait en lui sur fond de silence. Quelque temps plus tard, on l'invita au mariage d'un cousin, à Lunegarde, vous savez, le petit village voisin, pays jumeau, que ce Causse de Gramat, mais plus vaste, plus sec, sans refuge, pensait-il, en montant de Mont-Valan. Il devinait derrière lui la Dordogne, au bas de vastes étendues animées de l'incoercible frémissement de l'herbe. Tout là-haut, l'église rassemblait les invités. Rumeurs, claques dans le dos, apartés, escapades des petits, chacun racontait son village, faisait provision de commentaires. Au cours du repas, son cousin lui apprit qu'un fermier de la combe de Coursac cherchait un domestique. En sortant, il lui montra de vastes collines boisées. « Tu vois, c'est de l'autre côté de la Brogne. »
Eh bien, écoutez, Chantal, excusez-moi de vous couper. On va poursuivre ces lectures pour une troisième mission, Patrimoine et spiritualité. Merci beaucoup, Chantal, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, toujours avec grand plaisir.